Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
On ne se refait pas, les questions fiscales occupent une large place dans l'esprit des épargnants, dans votre esprit si ça se trouve. Et il y a une catégorie d'impôts dont on parle pas mal, ce sont tous les impôts qui touchent à la transmission, à la succession. Et pour en parler, Olivier Jeanneret est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être présent ce matin, avocat associé chez Arsène Taxan. On va donc parler de cette question des droits de succession, de leur fonctionnement, de leur éventuelle réforme, parce qu'on en a beaucoup parlé il y a quelques mois. D'abord, on peut peut-être les remettre au goût du jour, nos droits de succession, dire un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui en France, comment ils fonctionnent, quelle est leur hauteur, enfin bref, nous faire un petit rappel pratique.
Un petit topo. Alors les droits de succession, droits de donation, c'est la taxation de la mutation de la propriété, donc pour faire le schéma simple, des parents qui transmettent leurs actifs à leurs enfants. Et à ce moment-là, l'État arrive et prélève une dîme. Ce sont les droits de mutation à titre gratuit, comme on les appelle, qui ont lieu soit entre vifs, les donations, soit pour cause de décès, les successions.
Voilà donc le cadre dans lequel on opère. Il représente combien, en gros, parce qu'on sait qu'il y a plein d'impôts. Il y a la TVA, il y a l'IR, il y a l'IS, enfin, l'impôt sur ces sociétés, l'impôt sur le revenu, etc. Ça se positionne comment, tout ce qui concerne la succession, la donation?
C'est une bonne question, parce que souvent, on parle plus des impôts qui rapportent pas beaucoup et moins des autres. Les droits de mutation à titre gratuit rapportent, mais bien moins que la TVA, vous citiez. La TVA, c'est plus de 200 milliards par an. Les droits de succession à titre gratuit, c'est 18 milliards en 2022. Oui. C'était moitié moins en 2012. Pour voir à quel point il peut y avoir une progression en la matière, il faut savoir, parce que tout à l'heure, on parlait des grands principes, il y a des questions de taux aussi qu'on retrouve régulièrement en discussion, puisqu'on est à 45% en transmission, en ligne directe, et dès qu'on n'est pas dans la ligne directe entre parents et enfants, pour faire encore une fois simple, on arrive jusqu'à 60%. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats en la matière.
Alors, beaucoup de débats et beaucoup de rapports. On ne va pas tous les citer, mais en gros, il y a eu des études de l'OCDE, il y a eu ce fameux rapport Tirole-Blanchard, il y a eu un avis du Conseil d'analyse économique, et tout le monde y va de sa préconisation sur une réforme, dans un sens, dans un autre, avec un accent mis sur telle ou telle piste. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce bouillonnement d'idées, d'initiatives? C'est poussiéreux, il faut changer, enfin...
Alors déjà, tous ces rapports, assez étonnamment, ils sont tous arrivés en même temps.
Ouais.
C'était en 2021, on les a eu un peu coup sur coup. Naturellement, un rapport comme Tirole-Blanchard va chercher beaucoup plus de sujets que le rapport OCDE, qui était concentré sur cette problématique des droits de succession. Il faut voir, c'est que, on reprend si on, au niveau de l'OCDE, au niveau international, puisqu'on a toujours ce regard, est-ce qu'on fait mieux ou moins bien que notre voisin européen ou un peu plus loin, la France, naturellement, a des taux extrêmement élevés. Donc on aurait pu imaginer que l'OCDE nous dise c'est extraordinaire ce que vous faites, parce qu'à côté de ça, dans les pays de l'OCDE, il faut savoir, il y a plus d'un quart de pays qui n'imposent pas les mutations à titre gratuit. Et sur les autres trois quarts, il y a des taux qui sont très variables. En France, on arrive jusqu'à 45-60%. En Italie, on est à 4-6%. Donc autant dire que
ça n'a rien à voir.
Et c'est pas très loin de chez nous. Et pourtant, malgré ces taux extrêmement élevés, l'OCDE n'a pas du tout donné un billet vert à la France en leur disant que leur système était bon. Et on retrouve la même chose dans le rapport du CAE, dans le rapport Tirole-Blanchard. Qu'est-ce qui est mis en exergue? Ce qui est mis en exergue, c'est qu'en France, comme souvent, comme dans d'autres impôts, on a des taux très élevés, mais on a un gruyère. C'est-à-dire qu'il y a des trous partout.
Ouais,
et
ça.
Ces trous-là, ils posent une vraie question, c'est l'égalité des contribuables devant les charges publiques. Est-ce qu'on respecte toujours cette égalité?
Alors justement, tiens, qu'est-ce qu'ils en disent les contribuables? Ou même, disons, plus les Français, parce que certains ne payent pas cet impôt-là, et puis certains ne payent pas d'autres impôts. Enfin, qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce que d'ailleurs, il y a une corrélation entre le niveau d'impôt qu'on paye et l'opinion qu'on a sur un impôt? Si on prend par exemple ces droits de succession.
En fait, c'est très drôle parce que c'est un impôt pour lequel les contribuables, qu'ils payent ou qu'ils ne payent pas, on va dire le contribuable de façon générale, ils ont un avis à peu près équivalent. Autant pour les autres impôts, par exemple l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, la plupart, plus de 90%, trouvent ça très bien comme impôt. Il faudrait même taxer davantage. Bon, étonnamment.
Ceux qui ne le payent ne trouvent pas, sont pas tout à fait d'accord.
Ouais. Ceux qui ne le payent pas sont d'accord et inversement. Là, on a un impôt où tous les Français sont d'accord pour dire qu'ils n'en veulent pas.
Ah oui.
C'est-à-dire que vous ayez du patrimoine ou que vous n'en ayez pas, on ne souhaite pas avoir de taxation. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette idée qui est que le patrimoine n'est pas celui qui est hérité génération après génération, mais qui est la transmission du dur labeur. Et c'est vrai qu'avec cette image-là, qui est vraie dans une certaine mesure, mais qui n'est pas vraie de façon universelle, avec cette image-là, on a l'impression de payer une deuxième fois, d'avoir une double imposition en la matière. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut pouvoir réfléchir aussi à l'avenir.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'arguments pour se dire qu'il faut réformer ces droits de succession ou au contraire suffisamment d'arguments pour dire ne touchons à rien et est-ce qu'on a quelques pistes dans un sens plutôt favorable ou quelques pistes plutôt négatives. Enfin voilà, vous forgez quelle idée parce que vous êtes au cœur de cette problématique dans votre boulot.
Alors, il faut savoir que d'un point de vue technique, il y a deux piliers autour de l'assujettissement à l'impôt en la matière. Il y a la question de la résidence fiscale, est-ce que je suis un Français en termes fiscal ? Et après, est-ce que la transmission que j'envisage de faire a un rattachement avec la France d'une façon ou d'une autre, ce qui permet en réalité l'imposition finale ? Et quand on regarde cela et qu'on regarde la date à laquelle les règles ont été définies, c'est post-guerre, c'est le début des années 70. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est entre 50 ans et 70 ans plus tard, et les textes n'ont pas changé.
Alors que le monde, lui, a considérablement évolué. Ouais.
Exactement. Donc, vous mettez tout de suite le doigt sur un des points qu'il faut pouvoir appréhender, c'est notamment cette mobilité internationale qui n'existait pas à l'époque et qui, aujourd'hui, a un impact extrêmement fort dans l'équilibre, en réalité, vis-à-vis de cet impôt. Une fois qu'on a dit ça, après, l'autre sujet qui est de dire on a des taux très élevés, mais on a des trous dans notre gruyère. Il faut se reposer, je pense, comme à chaque fois, la question de savoir est-ce que ces trous, qui sont des dépenses fiscales en réalité, on donne un avantage à quelqu'un en fonction de l'actif qu'il possède. Notamment, on a le pacte Dutreil qui a été énormément pointé du doigt ces derniers mois et années. Donc voilà, il faut se poser la question de savoir si ces niches fiscales, ces dépenses fiscales sont encore nécessaires et potentiellement de rééquilibrer les taux d'imposition par rapport aux assiettes qui sont effectivement taxées.
Vous nous avez emmené tout à l'heure regarder un peu ce qui se passait autour de nous en donnant quelques chiffres comme ça. Est-ce que lorsqu'on a l'habitude de travailler justement sur cette mobilité internationale et donc sur des systèmes fiscaux différents, lorsqu'on a lu tous ces rapports, on se dit, en Italie, en Allemagne, en Angleterre ou plus loin au Canada, aux États-Unis, enfin bref, est-ce qu'il y a comme ça quelques systèmes où on se dit, si on s'inspirait un tout petit peu de tel ou tel dispositif, on en tirait quand même des bénéfices, que ce soit bien sûr pour le contribuable, mais aussi pour les finances publiques, pour une meilleure circulation des dépenses, peut-être un système plus juste, peut-être, enfin voilà.
Alors, il y a un système que j'aime beaucoup, et assez étonnamment, c'est pas celui auquel on pourrait penser au premier, c'est le système américain. Alors, d'une part, aux États-Unis, il y a la question de la nationalité qui préempte en réalité toute question fiscale et qui, quelque part, empêche les gens de déménager juste pour des raisons fiscales. Donc, il y a un côté qui est plus sain, je trouve, par rapport à l'approche fiscale. Après, en termes de transmission, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a des abattements très élevés. On est à 11 millions d'abattements par an. Et donc, on peut arriver quasiment à 25 millions de dollars d'abattement pour les transmissions de patrimoine. On est à 100 000 euros en France. Donc, autant dire qu'il y
a de la marge.
Mais la petite différence, c'est qu'on n'a pas ce qu'on appelle la réévaluation des actifs. Ça veut dire qu'en France, il y a les parents qui ont un actif qu'ils ont eu pour zéro et qui vaut 1 000. Ils le transmettent à leurs enfants. Si les enfants le vendent le lendemain matin et qu'ils le vendent pour 1 000, ils ne font pas de plus-value. C'est-à-dire qu'on a payé des droits de donation. Mais on ne paye pas des impôts sur la plus-value. D'accord. C'est ce qu'on appelle la purge de la plus-value. Aux États-Unis, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'on veut dire, normalement, sur un patrimoine de moins de 25 millions, vous n'allez pas payer d'impôts sur les donations ou sur les successions. Mais si vous revendez l'actif, on va considérer que vous l'avez eu pour zéro.
Ah oui.
Et quelque part, je trouve ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça donne une grande liberté de transmission. Puisqu'en réalité, on n'empêche pas la transmission par des coûts qui peuvent être dirimants et qui peuvent pousser certains à vendre des actifs. Mais si l'idée n'est pas de préserver cet actif dans la famille génération
après
génération...
Si c'est d'en profiter, on passera à la caisse.
À ce moment-là, on passe à la caisse. Et donc, j'aime bien de repousser l'imposition à plus tard. Alors après, c'est là où il y a une difficulté technique, c'est qu'on est sur un impôt qui est l'impôt sur les donations ou les successions, et on va bifurquer sur l'impôt sur les plus-values. Mmh. Et donc, les règles ne sont pas les mêmes, territorialement parlant notamment, et en termes d'assiette, tout ça peut évoluer. Mais voilà, c'est une idée que je trouve intéressante.
Vous aviez rappelé que tous ces rapports, OCDE, Tirole-Blanchard, CAE, étaient tous arrivés en même temps. Il y avait une raison à cela, c'est que se profilait une élection présidentielle en France et que cette question était un peu dans un certain nombre de programmes. Est advenu ce qu'il est advenu. Pour le moment, ces programmes ou ces idées ont été remisées sous le boisseau. Il faut qu'elles ressortent, elles peuvent ressortir. Vous considérez qu'il y a une chance qu'on réforme vraiment un jour ces droits de succession ?
Aujourd'hui, tout ce qui est sorti, c'est de la réforme, c'est du millimètre. Parce qu'on était là en train de se dire, c'est pas 100 000 tous les 15 ans, mais ça serait 100 000 tous les 10 ans, où on passe à 200 000. En réalité, le sujet, il n'est pas là. Encore une fois, on a les droits de succession et les droits de donation, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était 18 milliards en 2022. Certainement, ça va augmenter, puisqu'on a l'effet papy-boom, où il y a beaucoup de patrimoine qui n'a pas encore été transmis et qui va arriver.
Qui va changer de main.
Donc forcément, ça va créer certainement plus de rentrées d'argent, mais... Effectivement, les réformes telles qu'elles sont proposées aujourd'hui, j'appelle pas ça une réforme. C'est plutôt du populisme.
Donc un épargnant aujourd'hui, dans sa politique patrimoniale, il n'a pas à se préoccuper de ce genre de considération. Il n'a pas à adapter sa gestion de patrimoine pour prendre en compte une éventuelle réforme, parce que si elle se fait, on sera à peine dans l'épaisseur du trait, c'est ça ?
Aujourd'hui, c'est le cas, sauf sur la question du pacte Dutreil, qui est spécifique à la transmission d'entreprise. On pourra en reparler, mais je pense qu'il faudrait un peu plus de temps pour ça aujourd'hui. Et là, il y a beaucoup de discussions sur des réformes en profondeur. Après, je dirais, s'il y a un conseil à donner aujourd'hui, et les chiffres sont intéressants en la matière, c'est que sur les 18 milliards en question, il y en a moins de 20% qui sont des droits de donation. Donc, ce sont des transmissions du vivant. Et les 80% restants, c'est des transmissions pour cause de décès. Et quand on pratique la fiscalité patrimoniale du matin jusqu'au soir, on sait que par l'anticipation, on arrive à réduire par deux, par trois, si ce n'est plus, les droits à payer. Et ce qui est assez...
Il faut transmettre de son vivant, il faut organiser ça.
Et voilà. Et c'est vrai que les chiffres ici nous mettent en exergue le fait que les gens n'anticipent pas.
Ouais, donc ce n'est pas une réforme des droits de succession qu'il faut faire, c'est une réforme de la mentalité. Réfléchir au mouvement de son patrimoine ne va pas nous faire mourir. Alors certes, il ne faut pas se dessaisir, mais il faut transmettre. Quoi.
Exactement.
Merci beaucoup Olivier Jeanneret, donc Arsène Taxan ce matin sur Radio Patrimoine. On se retrouve très bientôt.
Avec plaisir.
Merci d'être passé nous voir dans Cœur de Patrimoine et nous on continue bien évidemment à vous accompagner.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.